cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous, ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Nos consultants sont en ligne pour vous éclairer. J'ai salué Élisée Oukpatine depuis Boyukon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Oui, bonsoir Yacouba et bienvenue au Bénin où il y a une forte pluie qui menace.
Ben écoutez, la pluie, ça fait toujours du bien. Avec nous également le doyen Jules Valentin Ngoué qui nous rejoint aujourd'hui, depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir. Je ne sais pas si Jules m'entend et donc Jules, qu'on a perdu, on va le retrouver tout à l'heure. D'ici là, on va retrouver également Amdinsi à Columbus dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Et puis, il sera également en direct depuis le Maryland, toujours ici aux États-Unis. Il s'agit de Eugène Pewapelema. Il nous parlera de basketball avec la qualification du Bangui Sporting Club pour la phase de groupe. Eugène, je le rappelle, est directeur technique national de la Fédération Centrafricaine de Basketball. Lui également sera en direct sous peu de la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou. Donc, il s'agit de Bernabé Cabré, il est journaliste sportif à Radio Omega. Il nous parlera de cyclisme avec la 34e édition du Tour cycliste international du Faso qui a eu lieu et dont l'arrivée finale a eu lieu hier dans ce Sporama de ce lundi 6 novembre 2023. La finale allée de l'African Football League remportée par le Wydad. Nous parlerons également donc des nominés pour les prochains CAF Awards, du basket au menu aussi avec la Road to BAL et du cyclisme Paris tenu donc pour, je le disais, pour la 34e édition du Tour cycliste international du Faso. Merci en tous, en tout cas, de votre présence et à vous, chers auditeurs, de rester à l'écoute. Nous allons tout de suite commencer avec du basketball, la Road to BAL. Eh bien, on connaît les premiers qualifiés pour la phase finale de la 4e édition de cette Basketball Africa League. La division Ouest a livré ses 3 représentants. Il s'agit des Centrafricains de Bangui Sporting Club, des Marocains de Fus de Rabat et des Libyens de Benghazi. Le Bangui Sporting Club s'est même emparé de la première place suite à sa victoire en finale sur le Fus de Rabat 93-90. Et pour en parler, il est en ligne Eugène Pewapelema, directeur technique national de la Fédération Centrafricaine de Basketball, avec nous depuis le Maryland. Eugène, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors, dites-nous très rapidement comment Bangui Sporting Club a réussi à arracher son ticket pour la phase de groupe de la Basketball Africa League édition 2024.
Mais écoutez, d'abord, le Bangui Sporting Club est une jeune équipe qui a commencé à se préparer pour cette compétition depuis 2021. Elle n'avait pas pu participer à l'édition de 2021-2022, mais a pu se qualifier pour celle de l'année dernière. Et avait été éliminé justement au stade de la finale de la conférence. Mais cette année, avec l'expérience acquise de l'année passée, le président de ce club, Cyril Damango, avec tout son staff, a pu mettre en place une stratégie, premièrement de recrutement, parce que vous savez que la balle, vous avez le droit de recruter 2 joueurs américains ou non africains, et 2 joueurs africains qui renforcent l'équipe pour ce tournoi. Et donc, je crois qu'ils ont fait une préparation d'une certaine manière scientifique. Ils ont pu recruter Coach Mills, cette coach australienne, qui a une très bonne réputation. Et ils ont construit leur équipe en jouant d'abord le premier tournoi qui s'est joué aussi à Yaoundé, qui était un tournoi, on peut dire, zonal, où il y avait toutes les équipes ou les clubs champions des différentes fédérations d'Afrique centrale, donc le Cameroun, le Tchad, le Gabon, la Guinée équatoriale, la RDC et le Centrafrique. Et au sortir de cette compétition, ils ont terminé premier, donc se sont qualifiés pour la conférence Ouest, pour la phase finale de la conférence Ouest, dans laquelle il y avait 2 poules de 4 équipes chacune. Et le BSC, malgré une première défaite dans cette compétition contre Fus, à leur deuxième match, a pu justement renverser la vapeur en battant les ABC Fighters d'Abidjan et se qualifier pour cette demi-finale qui leur a permis de l'emporter sur cette équipe de Benghazi. Et cette finale hier qu'ils ont remportée 93-90, donc ils ont pu, d'une certaine manière, tirer les leçons des défaites qu'ils ont eues pendant durant ces 2 tournois et ont pu justement capitaliser avec les quelques joueurs qu'ils avaient, dont l'une des
Alors, Eugène, alors, vous l'évoquiez, la coach Liz Mills, on le sait, elle est passée par l'équipe nationale du Kenya, ensuite l'AS Salé du Maroc, Abidjan Basketball Club, et maintenant elle est au Bangui Sporting Club. Quelle a été sa part contributive dans cette qualification? Est-ce que vous avez senti véritablement cette touche de la coach Liz Mills? Eugène, si vous m'entendez.
Coach, à l'expérience du coach. Oui,
allez-y.
Je dis, chez elle, il y a l'expérience du coach. Coach Mills, on a pu voir dans ses systèmes de jeu, on peut voir dans la manière dont l'équipe jouait. Elle a essayé de mettre un système en place beaucoup plus structuré pour retirer le mieux de ses joueurs. Il y a aussi le nom, parce que vous savez, quand vous êtes coach au niveau de ce genre de compétition, vous êtes un peu plus respecté par les arbitres. Il y a des aspects en dehors du basketball qui viennent jouer dedans, et donc on peut voir. Elle était aussi accompagnée de son assistant. Elle avait deux assistants, Gabin Arida de la République sud-africaine, et son coach de la défense qui s'appelle Jeffrey Sparrow, qui était le spécialiste de la défense. Et donc on a pu voir, lorsque l'équipe de BSC était en difficulté, par exemple, que ce soit contre l'équipe de Benghazi ou même contre l'équipe de FUS, on a pu voir que au quatrième carton, la défense a vraiment fait une très grande différence qui leur a permis de pouvoir justement l'emporter sur ces deux équipes et pouvoir s'adjuger cette première place de la conférence de l'Ouest.
Voilà, Eugène Pewa Pelema, et donc je rappelle que vous êtes le directeur technique national de la Fédération Centrafricaine de Basketball, avec Bangui Sporting Club, donc qualifié pour l'édition prochaine de la Basketball Africa League, donc qualifié pour la phase de poule. Alors, Jules, on le sait, FAP du Cameroun était également en route pour cette qualification à la Basketball Africa League. On n'a pas encore Jules Omédie. Donc, alors, Élisée, je le disais, FAP du Cameroun était pré-qualifié avec ce tournoi qu'il a accueilli à domicile. Et finalement, les forces armées et police du Cameroun ne participeront pas une fois de plus à cette Basketball Africa League en 2024. Dommage. Élisée, si vous m'entendez.
Oui, allô, Yacouba.
Oui, je le disais, les forces armées et police du Cameroun, FAP donc, qui s'inclinent à domicile et qui sont éliminées de la course à la Basketball Africa League, la prochaine édition. C'est dommage pour les Camerounais quand même qui recevaient ce tournoi pré-qualificatif là, à domicile.
Bien évidemment, l'élite 16 où ils organisaient à domicile, vous venez de le dire, les FAP, quand même les forces armées et police du Cameroun, c'est une session qui a quand même, qui domine quand même cette discipline au Cameroun et qui recevait ces éliminatoires de la division Ouest à Yaoundé. Et pourtant, les Camerounais ont bien commencé ces éliminatoires en battant les Congolais de la RDC, de la République démocratique du Congo, dès leur premier match. Eh bien, c'est quand même au second match que les Camerounais se sont inclinés devant Alali Benghazi. Eh bien, ils se sont quand même bien comportés lors de leur dernier match pour pouvoir prendre quand même le ticket, le droit de disputer le match de classement contre les Libyens d'Ali Benghazi. Donc, il y a eu quand même une très grande opposition, une très grande rencontre entre les deux formations qui se sont rendues coup pour coup, mais c'était sans compter sur l'expérience de cette équipe de Benghazi qui l'a quand même remporté, surtout lors du dernier quart temps, puisque les Libyens ont quand même mis l'accélérateur, surtout après la mi-temps, et ont bien su dévancer les Camerounais de 11 points au finish. Eh bien, les Libyens l'ont remporté 93-84, 9 points de différence. C'est une grande déception pour le club camerounais qui, quand même, devrait prendre ses éliminatoires à domicile afin de se qualifier pour une deuxième année de cette compétition, la Basketball Africa League.
Voilà, merci Élisée Mpatine. Nous marquons une courte pause et nous revenons tout de suite. Je le disais, nous parlons également de cyclisme dans ce numéro de Sporama débuté le 27 octobre. Le Tour cycliste international du Faso a connu son épilogue hier à Ouagadougou. Le Burkinabé Paul Doma a remporté cette 34e étape. Il a fait forte sensation en remportant justement 5 des 10 étapes de cette compétition. Au total, 13 équipes de 11 pays ont pris part au Tour du Faso cette année. Nous sommes en direct avec Bernabé Cabré, il est journaliste sportif à la radio Omega. Bernabé, bonsoir.
Yacouba Ouedraogo, bonsoir à vous et bonsoir à toute l'équipe.
Vous avez été sur les routes du Tour. Dites-nous comment Paul Doma a pu dominer cette édition.
Il faut noter que c'est la solidarité de l'équipe burkinabé qui a permis à Paul Doma de remporter cette 34e édition du Tour cycliste international du Faso. Déjà à 24 heures du coup d'envoi, du premier coup de pédale, les trois équipes burkinabées engagées dans la compétition ont été reçues par l'empereur de Mossé, le Moro Naba Bangogo, qui a prodigué des conseils à toute l'équipe burkinabé et appelé à la cohésion au sein du groupe. On retient en tout cas cette phrase de Moro Naba: si vous ne gagnez pas le Tour du Faso, c'est qu'il y a eu mésentente au sein du groupe Étalon. Et tout s'est dessiné dès la première étape, 144 km disputés entre Ouagadougou et Pau. C'était d'ailleurs la plus longue étape de ce Tour du Faso. Paul Doma, un coureur en forme, il a participé à beaucoup de courses cyclistes cette année sur le continent africain. Et le plus important, c'était en tout cas de le positionner et de faire en sorte pour qu'il prenne déjà le maillot jaune dès cette première étape. C'était chose faite puisque c'est Paul Doma qui va remporter la première étape du Tour du Faso. Il va prendre le maillot jaune, il va le conserver après la deuxième étape, mais il va perdre le maillot à la troisième étape à Ouagadougou lors d'un critérium dans la capitale à Burkinabé. C'était en tout cas la déception. Et dès la quatrième étape, l'équipe burkinabé a travaillé pour faire en sorte que Paul Doma récupère ce maillot. Maillot qui ne va plus lâcher jusqu'à la dernière étape courue ce dimanche à Ouagadougou. C'est donc la solidarité du groupe Étalon, sans oublier la forme du moment de Paul Doma qui se positionne aujourd'hui comme le meilleur coureur burkinabé. Il est d'ailleurs champion du Burkina Faso, un titre qu'il a obtenu en juin dernier.
Alors, Bernabé Cabré, ces dernières années, le Tour du Faso a lieu dans des conditions difficiles d'insécurité. Comment avez-vous vécu justement cette édition sur les routes du Faso en termes de sécurité?
En tout cas, c'était particulier, c'était un dispositif sécuritaire particulier que nous avons vu sur ce Tour du Faso. Personnellement, en tant que journaliste, c'est la 7e fois que je couvre le Tour cycliste international du Faso, mais nous avons vu un dispositif sécuritaire impressionnant. Tout était mis en œuvre pour protéger toute la caravane. Et Dieu merci, tout s'est bien passé de la première à la dernière étape. Ce qui était un peu difficile pour nous journalistes, c'était de respecter les consignes de sécurité parce que c'était un peu particulier. Il n'y a pas eu en tout cas de frissons, tout s'est très bien passé. Quelques faits marquants en tout cas côté sécurité comme changement. On le sait, il y a dans une course cycliste, il y a régulièrement des bandes, des crevaisons, des coureurs en tout cas qui demandent l'assistance de leur directeur sportif et leur mécanicien pour les différents dépannages. Et à chaque dépannage, il y a des hommes de sécurité qui assurent, bien sûr, la sécurité du coureur, de son mécanicien et de son directeur sportif. Ce sont des choses qu'on ne voyait pas au Tour du Faso. En tout cas, tout était mis en œuvre pour que le Tour du Faso 34e édition soit une réussite. Certains pays n'ont pas effectué le déplacement pour des raisons sécuritaires. D'autres pays, comme l'Algérie, ont même effectué le déplacement à Ouagadougou et ont quitté la capitale burkinabé à 24 heures du top départ du Tour du Faso. Mais dans l'ensemble, tout s'est bien passé côté sécuritaire.
Alors justement, Bernabé Cabré, est-ce qu'on en sait davantage sur le retrait de l'équipe algérienne alors qu'elle avait déjà fait le déplacement de Ouagadougou?
Effectivement, l'équipe algérienne a effectué le déplacement à Ouagadougou et elle est repartie à la veille du coup d'envoi du Tour du Faso. Alors Yacouba, selon les explications du ministre burkinabé des Sports, Boubacar Savadgo, la Fédération algérienne de cyclisme n'était pas au courant de la présence de l'équipe algérienne à Ouagadougou et a demandé à l'ambassadeur de faire revenir l'équipe. Ça, ce sont les explications du ministre burkinabé des Sports. Selon également nos informations, l'Algérie avait prévu d'envoyer une équipe continentale à ce Tour du Faso, une équipe continentale dans laquelle lesquels on retrouve des coureurs sud-africains, des coureurs rwandais et même des coureurs angolais. C'est suite à une mésentente que l'équipe nationale elle-même a décidé donc d'effectuer le déplacement à Ouagadougou. Écœurée et frustrée, la Fédération algérienne de football a demandé à l'équipe algérienne de faire demi-tour et de ne pas participer au tour du Passosa. Ce sont en tout cas les explications officielles que nous avons. Mais ce n'était pas du tout beau. L'Algérie, qui était annoncée comme un des pays participants à ce tour du Faso, qui effectue le déplacement à Ouagadougou, qui est logé dans un hôtel de la place et qui quitte l'hôtel sans informer non seulement la Fédération burkinabé de cyclisme, sans informer le ministère burkinabé des sports, ce n'était pas beau à voir. Mais dans l'ensemble, malgré l'absence de l'Algérie, tout s'est bien passé.
Merci beaucoup, Bernabé Kabré. Je rappelle que vous êtes journaliste à Radio Omega et que vous étiez en direct de Ouagadougou au Burkina Faso pour nous parler de l'épilogue donc de cette 34e édition du Tour cycliste international du Faso. Football avec le début de la Ligue des champions féminines africaines qui se poursuit en Côte d'Ivoire. Le groupe B est entré en lice ce lundi à San Pedro. Dans le sud-ouest, les tenantes du titre marocain de l'ASFA faisaient face aux Ghanéennes d'APEM d'Ankoua. Élysée, victoire 2-1 des Ghanéennes qui étaient pourtant menées à la pause.
Évidemment, Yacouba, c'était un match très disputé où il y avait une forte pression des Marocaines qui sont bien rentrées dans la rencontre, mais c'était sans compter sur la détermination de l'équipe de Tankoa, les Ghanéennes qui, on se rappelle déjà, et qui étaient déjà présentes lors de la précédente édition et qui n'ont pas pu aller très loin. Cette fois-ci, elles se sont renforcées pour pouvoir quand même aller chercher le Graal, puisque là déjà, il n'y a que deux anciens vainqueurs de cette troisième édition de la Ligue des champions féminines. Il y a bien sûr les Marocaines que vous voulez de citer, puis les Sud-Africaines de Mamelodi Sundowns qui ont bien entendu la compétition. Donc, tout à l'heure, les Ghanéennes ont fait forte sensation en domptant ou bien en battant quand même le tenant du titre. Donc, il faut comprendre qu'elles ont lancé un signal fort pour la suite de la compétition.
Voilà, dans le deuxième match de cette poule B, tout à l'heure, donc dans moins de 8 minutes, les Équato-Guinéennes d'Ourakan jouent contre les Maliennes de l'AS Mandé. Hier, Élysée le disait, dans le groupe A basé à Kourougou dans le Nord, les Sud-Africaines du Mamelodi Sundowns ont réussi à leur début en battant 2-0 les Tanzaniennes de Jiketi Queens. En revanche, le club hôte Atlético FC d'Abidjan a été accroché un but partout par le second représentant marocain, le Sporting Club de Casablanca. Petite histoire de ce club marocain avant une analyse de la rencontre avec Amine Birouk.
Je voudrais surtout parler de cette aventure merveilleuse que vit le deuxième représentant du Royaume chérifien, le Sporting de Casablanca, une équipe fondée en 2017 et qui a petit à petit franchi tous les échelons au Maroc, a terminé la saison dernière deuxième du championnat, disputé la finale de la Coupe du Trône. Sa deuxième place en championnat, étant donné que l'AS FAR avait remporté la Champions League lors de sa deuxième édition, a permis à ce jeune club de disputer la Coupe du NAF. Et lors de cette compétition disputée au mois d'août dernier, les Casablancaises ont gagné leurs trois confrontations. C'est donc avec ces éléments qu'elles ont abordé le match d'ouverture face à l'Atlético d'Abidjan à Korogo. Un match où l'impact physique était en faveur des Ivoiriennes qui ont dominé la première mi-temps. Et si ce n'avait été la gardienne Imen Abdelhad, le score aurait pu être plus large que le 1-0 avec lequel s'est terminée la première mi-temps. D'autant plus que la gardienne marocaine qui avait fait un sans faute a commis une erreur en encaissant un but dans un angle fermé. La deuxième mi-temps, les joueuses du Sporting de Casablanca ont essayé de temps en temps de surprendre la formation ivoirienne qui a manqué à plusieurs reprises le coach, c'est-à-dire le but du chaos. Et puis c'est un peu contre le cours du jeu que le Sporting de Casablanca a égalisé sur une frappe de une autre ivoirienne, mais cette fois-ci dans le camp marocain, Guessant, à la 82e minute, une frappe des 25 mètres qui a surpris la portière de l'Atlético Abidjan et qui a permis donc aux Marocaines de remporter le point du nul. Chaque point comptera dans ce groupe, d'autant plus que la prochaine confrontation du Sporting de Casablanca aura lieu face aux grosses prétendantes au titre Mamelodi Sundowns, les Sud-Africaines qui semblent favoris de ce groupe-là, qui ont de la marge par rapport aux autres équipes. On verra aussi dans quelle mesure l'équipe de la AS FAR tentera de conserver son titre. Un premier match ce soir, une rencontre où il faudra que les championnes du Maroc et championnes d'Afrique en titre puissent confirmer leurs aptitudes, d'autant plus puisqu'elle débarque avec la plupart des joueuses qui ont disputé la dernière Coupe du Monde au sein de l'équipe du Maroc, à l'exception de Senem Soudi qui revenait en compétition et qui a été gravement blessée, encore une rupture des ligaments croisés, un signe du destin par rapport à cette joueuse qui avait déjà manqué l'édition de la saison dernière. En tout cas, les deux clubs marocains sont bien partis dans cette compétition et on verra dans quelle mesure les phares vont confirmer leur statut de favorite aux côtés de Mamelodi Sundowns et comment le Sporting de Casablanca va continuer à vivre cette aventure idyllique en jouant les troubles faites dans le groupe A de la compétition du côté de Corogo.
En tout cas, pour ce qui est de ce soir, les phares ont bien perdu hein, face donc aux Ghanéennes. Alors, Jules, cette compétition de la Ligue africaine des champions, elle sert tout simplement de tournoi de préparation à la CAN, mais il faut le reconnaître, c'est une véritable compétition quand on voit les filles jouer.
Mais bien sûr, surtout qu'on sait que les filles, à l'heure actuelle, sont en train de faire des progrès énormes en très peu de temps. Bon, alors, on voit par exemple des nations comme l'Éthiopie qui arrive à tenir tête aux équipes nigérianes, ou alors nous avons toute l'Afrique du Nord qui est pratiquement mise au niveau avec la Tunisie, l'Égypte, aux côtés du Maroc. Et nous avons l'Ouganda, et, par exemple, qui a posé, le Kenya, qui a posé des problèmes aux Camerounais, même en équipe nationale. Et donc, ça bouge chez les filles, l'Afrique du Sud comprise, et l'Afrique australe aussi d'une manière générale, ça bouge chez les filles. Et donc, automatiquement, on s'attend à ce que les progrès soient sensibles ces derniers temps. Et sûrement que dans les compétitions internationales hors du continent, cela va donner des résultats.
Football toujours donc avec la finale aller de la nouvelle compétition de l'African Football League, la Ligue africaine de football qui s'est jouée hier à Casablanca au Maroc où le Wydad recevait les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns. Score 2-1 pour les Wydadi. Amdine Sy, léger avantage hein, pour les Marocains, même si le but à l'extérieur va compter dans le match retour.
Tout à fait, Yacouba. Le WAC qui était finaliste malheureux de la Ligue des Champions et cette année est bien parti pour remporter pour la première fois de l'histoire cette compétition exceptionnelle que la CAF et la FIFA ont créée. 2-1 en faveur des Marocains. Mais comme vous l'avez dit tantôt, le match retour sera un match piège puisque les Sud-Africains ont réussi à marquer un but qui vaut son pesant d'or puisque ce but peut permettre aux Sud-Africains de renverser la tendance. Mais pour le moment, léger avantage aux Marocains. Yacouba.
Le match retour est prévu pour le dimanche à venir. La CAF a dévoilé des nominés pour les catégories masculines des CAF Awards 2023. 30 candidats désignés donc pour le titre de joueur africain de l'année. On connaîtra le successeur de Mané le 11 décembre. L'équipe du Maroc place le plus de représentants. Mais Jules, écoutez, à côté des stars marocaines, il y a Victor Osimhen, le Nigérian de Naples, qui part quand même favori.
Oui, bien sûr. Et c'est même le part favori dans la mesure où la jauge pour voir, disons que faire la différence entre les différents candidats est souvent la Ligue européenne des champions qui est au-dessus en termes de sportivité et est au-dessus pratiquement de la Coupe du Monde parce que c'est des multinationales européennes qui se produisent. Et là, Osimhen a fait vraiment la différence en Europe. Il serait très, très, difficile que quelqu'un le batte sur ce terrain. Peut-être les deux gardiens de but superbes qu'on a eu aussi cette année, c'est-à-dire Onana d'un côté et Bounou du Maroc de l'autre. Alors, mais je crois que Osimhen tient le bon.
Alors, très rapidement, Élisée, on sait que le Mondial 2022 passé donc a été un critère déterminant dans l'attribution du Ballon d'Or France Football à Lionel Messi. Le Maroc a fait une très belle prestation durant le Mondial, demi-finaliste bien sûr historique. Est-ce que ça va se jouer franchement entre le gardien Yacine Bounou du FC Séville, le gardien marocain, et le Nigérian de Naples, Victor Osimhen?
On pourra le dire comme ça, hein, Yacouba, puisque avant même d'aller du côté de l'Arabie Saoudite, Bounou s'est illustré encore hein, en super Coupe d'Europe. Hein, vous imaginez dans sa spécialité en arrêtant les tirs au but. Donc vous imaginez, donc ça va, ça va se jouer certainement à ce niveau. Vous voyez, il faut aussi comprendre que c'est à l'issue des votes des différents acteurs.
Élisée, malheureusement, on n'aura pas le temps de développer ce titre-là. On va y revenir sans doute la semaine prochaine pour parler justement des critères d'attribution de ce Ballon d'Or africain. En attendant, ce programme s'achève ici. Merci à vous, Élisée. Merci à Amdine Sy, à Jules Valentin Ngoué, Eugène Péwa Pélément, Bernabé Cabré. Je suis Yacouba Ouédraogo. On va se retrouver la semaine prochaine en attendant une nouvelle édition du journal avec Rosine Mounessero, réalisation de ce programme, Joselle Morissin.